Bienvenue à votre Carrefour Science et Santé consacré entièrement au virus Zika qui défraie la chronique. Pas de plaisir sans danger, la transmission du virus Zika par la voie sexuelle est possible. Et attention, pas de traitement ou de vaccin spécifique. Il faut s'armer de patience pour vaincre Zika.
Il faut qu'on s'arme de patience, on travaille très très vite. Beaucoup de gens s'intéressent à cette question et donc il faut juste laisser le temps de faire cela. Je pense que la plupart des gens qui travaillent là-dessus sont conscients des enjeux.
Le chercheur sénégalais sur Zika, le docteur Amadou Sol de l'Institut Pasteur de Dakar, nous dira l'attitude à adopter face à la complexité de cette épidémie. Eric Manilakiza est heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Carrefour. Lundi dernier, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié d'urgence de santé publique de portée mondiale les malformations chez les femmes enceintes, comme les microcéphalies, dont le lien n'est pas encore clairement établi avec le virus Zika. Pour mieux comprendre cette épidémie, le docteur Amadou Sol, qui dirige l'Institut Pasteur de Dakar et activement impliqué dans la recherche sur Zika, revient d'abord sur la genèse et la transmission du virus.
Le virus Zika, en fait, est un virus qui a été isolé en Ouganda la première fois en 1947. Depuis lors, il a un peu été retrouvé dans différents endroits du monde, d'abord en Afrique, dans la plupart des cas, et ensuite, à partir de 2007, il y a eu en Micronésie une épidémie qui était assez inhabituelle avec un nombre de cas un peu plus important. Ensuite, il y a eu des événements majeurs en Polynésie française en 2013 et 2014 qui ont donné lieu à des épidémies majeures et pour la première fois, des syndromes sévères neurologiques ont été un peu notés par rapport au virus Zika, notamment avec le syndrome de Guillain-Barré. Et récemment, avec la description du virus, l'entrée du virus au niveau du Brésil, il a été noté que ce virus avait été associé dans le temps et dans l'espace avec l'apparition de microcéphalies. Bien qu'il ne puisse pas être établi un lien formel entre le virus Zika et les microcéphalies, c'est quelque chose qui est assez inhabituel dans le contexte dans lequel on connaît Zika. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, c'est une infection qui est transmise par les moustiques. Et cette infection, en général, est assez bénigne et elle est inapparente dans près de 80% des cas. Et c'est les rares cas où elle donne lieu à des symptômes. Elle présente des syndromes, un syndrome pseudo-grippal, c'est-à-dire avec un peu de fièvre et des arthralgies, un peu de fatigue, qui au bout de quelques jours va se résorber. Et que donc c'est généralement ce que vous dites sur le virus Zika. Et voilà, le mode de transmission, vous connaissez les moustiques. Il y a eu une transmission probable peut-être qui est liée à un rapport sexuel et c'est une discussion autour des possibilités concernant la transfusion. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire sur le virus du Zika. Il n'y a pas à ce jour de traitement spécifique ni de vaccin. Et donc le meilleur moyen de s'en protéger, c'est de lutter contre les moustiques par une approche de contrôle antivectoriel.
Et c'est toutes sortes de moustiques. C'est quel genre de moustiques qui cause ce virus?
C'est plutôt les moustiques du genre Aedes qui transmettent le virus Zika. Donc c'est plutôt les virus du genre Aedes qui ont été retrouvés comme étant très très efficaces pour le virus Zika, même si d'autres espèces ont pu être trouvées, mais les principaux, les moustiques Aedes.
Ce sont des moustiques, par exemple, qui sont sur tous les continents ou c'est dans certaines parties du globe?
Bon, les moustiques Aedes sont sur l'ensemble du continent. Enfin, ils sont souvent dans les zones plus concentrées, dans les zones tropicales et subtropicales, même si on peut les voir dans les zones un peu éloignées. Mais globalement, elles sont présentes sur tous les continents.
Les chercheurs ont aussi identifié un probable mode de contamination, la voie sexuelle, selon le docteur Amadou Sol.
Donc, comme je vous l'avais dit, c'est la transmission sexuelle est quelque chose de probable. C'est qu'il y a eu un certain nombre de cas où on suspecte que la transmission a été sexuelle, mais il n'y a pas de preuve formelle là-dessus. C'est que c'est très suspecté. Compte tenu d'une infection qui a été documentée, une des voies qui a probablement pu être en jeu, ça a été la voie sexuelle. Donc, c'est pas un mode de diffusion qui est très répandu. Et il n'est pas très fréquent, en tout cas, pour ce que l'on en sait aujourd'hui. Mais je l'ai évoqué dans le contexte de moyens possibles de transmission. Mais le moyen prédominant à ce jour est la transmission par les moustiques.
Et cette semaine, les États-Unis ont signalé un cas de transmission par voie sexuelle au Texas. La femme enceinte s'avère être la plus vulnérable. Le docteur Amadou Sol est bien clair. Pas de traitement ou de vaccins spécifiques pour combattre Zika.
Au jour d'aujourd'hui, il faudrait, comme je vous disais, s'assurer, parce que la cause, le Zika étant la cause des microcéphalies, n'est pas vraiment quelque chose d'établi aujourd'hui, même s'il y a un certain nombre d'arguments qui vont dans ce sens. Comme le fait qu'on a retrouvé du virus dans le liquide amniotique des enfants qui ont eu des femmes enceintes qui ont donné lieu à des enfants avec des microcéphalies, comme le fait qu'on a retrouvé du virus chez des tissus de fœtus qui présentaient un peu un contexte de microcéphalie. On ne peut pas, pour l'instant, sur la base de ces seuls arguments, dire que c'est la cause, même s'il y a des arguments qui vont dans ce sens. Alors on parlera plutôt d'association. Maintenant, si la cause est établie, il faudrait voir par quel mécanisme cela se fait. Mais à ce jour, ce mécanisme n'est pas connu.
Si le virus n'a ni médicament ni prévention, est-ce mortel?
Bon, la mortalité liée au virus Zika n'est pas très très importante. Elle est quasiment très 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 faible. D'après ce que l'on en sait jusqu'à présent, en tout cas, c'est l'infection chez l'adulte. Maintenant, quand on dit qu'il n'y a pas de thérapie, il faut dire qu'il n'y a pas de thérapie spécifique. Ça veut dire qu'on n'a pas aujourd'hui une molécule spécifiquement prouvée comme étant active contre le virus Zika. Quand on dit qu'il n'y a pas de vaccin, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyen de prévention, puisque le virus étant transmis par des moustiques, on peut lutter contre ces vecteurs. Et donc, c'est la lutte antivectorielle qui est prônée. Et donc, pour éviter les piqûres de moustiques, par ce moyen-là, on peut prévenir l'infection par le virus Zika.
Ne quittez pas, Carrefour continue dans quelques instants. Eric Manelakidza en votre compagnie, c'est le virus Zika qui retient aujourd'hui notre attention dans ce numéro d'O Carrefour. En effet, le virus Zika présente quelques symptômes communs à plusieurs infections, mais ce virus n'est pas détectable dans 80% des cas. Explication avec notre chercheur, le docteur Amadou Sol.
Oui, en fait, ce que je disais, c'est que le virus Zika, quand il infecte dans 80% des cas, ne va pas donner des symptômes. Ça veut dire que la personne ne va pas faire une infection avec des signes qu'on va voir, même s'il est infecté, même si le virus va se développer dans son sang et dans certains de ses fluides comme les salives ou les urines. Mais dans 20% des cas, ces signes vont être apparents. Il va avoir une éruption cutanée, il va avoir de la fièvre, il peut avoir des maux de tête, il peut avoir des douleurs musculaires, des douleurs au niveau des articulations. Donc, une fois que ce type de symptômes se présente, ces symptômes sont communs à plusieurs infections. Et c'est pour ça que pour pouvoir faire un diagnostic, on a besoin d'avoir recours au laboratoire. Et donc, à partir d'un prélèvement de sang, de salive ou d'urine, on peut essayer de détecter le virus si le prélèvement a été fait au moment où on a les symptômes ou à l'état précoce de l'infection. À partir de ce moment-là, on peut essayer de détecter le virus par différents moyens, soit en mettant en évidence son matériel génétique, soit en isolant le virus lui-même. Mais aussi lorsque l'infection est un peu plus tardive, c'est-à-dire au-delà de 5 jours, on peut essayer de rechercher les anticorps qui sont dirigés contre ce virus. Donc les moyens de diagnostic sont vraiment ce type d'approche virologique, de détection du matériel génétique, de l'isolement du virus, ou de la détection des anticorps, soit récents, soit anciens. Et par rapport à ces différentes méthodes, il faut savoir qu'on a souvent recours à des techniques de confirmation. Mais globalement, l'approche diagnostique est celle que je viens de vous décrire.
Il y a la Croix-Rouge qui propose de stopper le virus en contrôlant les moustiques vecteurs. Au niveau de vos recherches, est-ce que c'est une mesure, par exemple, qui peut aider à maîtriser Zika?
Bon, tout dépend du contexte dans lequel se fait la transmission. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le virus Zika peut circuler dans un contexte relativement de forêt, et de ce point de vue-là, pour cibler les vecteurs, c'est un peu plus difficile pour contrôler la maladie dans une zone rurale à transmission essentiellement selvatique, ce qu'on appelle la transmission de forêt. En revanche, quand il se passe dans un contexte un peu domestique ou dans un contexte urbain, la lutte antivectorielle peut aider à décroître la population de moustiques, et de ce point de vue-là, de permettre de prévenir l'infection par le virus Zika, puis que cela permet d'éviter les piqûres de moustiques qui portent ce vecteur-là. Donc je pense que c'est un moyen de lutte qu'il faut prendre en compte, et même si ce n'est pas un moyen simple à mettre en œuvre.
Est-ce que réduire la pauvreté aussi pourrait beaucoup contribuer?
Bon, ça dépend de ce que vous entendez, la pauvreté et les conséquences. Je pense que réduire la pauvreté permet, enfin, je pense, de lutter contre beaucoup de choses, et ce n'est pas spécifiquement par rapport aux ICA. Si vous voulez mieux reformuler la question, je ne comprends pas très bien.
Comme c'est lié aux moustiques et que les moustiques, par exemple, aiment dans des endroits, disons, moins propres, est-ce que accompagner la lutte contre Zika par des mesures de réduction de la pauvreté, est-ce que ça peut contribuer?
Bon, en fait, par rapport aux moustiques, ils ne sont pas liés forcément à des contextes comme vous appelez des quartiers pauvres ou cela, puisque on sait que dans des endroits qui sont relativement riches, si je peux m'exprimer ainsi, on peut trouver ce type de vecteur. Il est arrivé de voir dans un certain nombre d'épidémies ces vecteurs justement être dans des villas qui sont assez bien cossues, justement parce que c'était dans des contextes où les gîtes dans lesquels se trouvaient les moustiques, c'était soit des pots de fleurs de jardin ou ce genre de choses. Donc en fait, il n'y a pas un lien nécessairement avec la pauvreté. Si votre par pauvreté, vous entendez plutôt l'habitat dans lequel les gens vivent. Maintenant, il est sûr que des problèmes d'assainissement ou des problèmes de gestion des déchets au niveau péridomestique peuvent être des gîtes qui sont assez favorables à la population de moustiques, dont les vecteurs du virus Zika.
Mais docteur, pourquoi le virus se manifeste le moins chez l'homme que chez la femme? C'est du moins notre impression.
Non, c'est-à-dire que ce soit l'homme ou la femme, ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que le virus va être asymptomatique dans la majorité des cas. Dans 1%, on va donner des symptômes. Maintenant, la seule nouveauté qu'il y a actuellement, c'est que si le lien entre le Zika et le microcéphalie est établi, c'est-à-dire que c'est la femme enceinte qui peut avoir un risque, même si ce risque n'est pas de 100%. Donc voilà, je pense qu'en dehors de cet aspect précis, au jour d'aujourd'hui, chez l'adulte, en termes d'expression clinique, nous ne notons pas de différence pour ce que l'on en sait entre les hommes et les femmes.
Quand est-ce qu'on peut espérer pouvoir établir ce lien, s'il existait?
Non, il est très difficile de faire des prédictions dans le domaine de la recherche, puisqu'on investigue selon plusieurs pistes avec des méthodes pour lesquelles il est extrêmement difficile de donner une date précise ou un moment quand est-ce qu'on va trouver le résultat. Donc je pense qu'il faut qu'on s'arme de patience. On travaille très très vite. Beaucoup de gens s'intéressent à cette question et donc il faut juste laisser le temps de faire cela. Je pense que la plupart des gens qui travaillent là-dessus sont conscients des enjeux. Ils font un maximum pour arriver à une réponse le plus rapidement.
Et depuis quand des recherches ont été lancées sur Zika et quelles sont, disons, les avancées déjà enregistrées?
Bon, le virus Zika, justement, a été découvert dans le cadre d'un programme de recherche sur l'écologie des arbovirus, donc ça date la fin des années 40. Et depuis cette période, plusieurs choses ont été comprises. On a compris qu'il est transmis par les moustiques, on a compris qu'il est transmis par les moustiques Aedes, on a compris qu'il y avait un cycle de forêt. Nous travaillons beaucoup sur la dispersion de ce virus pour développer des outils diagnostiques de plus en plus efficaces. Et de ce point de vue-là, il y a une meilleure compréhension aussi de la présentation clinique des personnes. Et par rapport au diagnostic, on a mieux compris les fuites sur lesquelles était présent le virus Zika. C'est pour ça qu'on a pu voir la détection dans les urines peut-être un moyen pour disposer d'informations plus précises en matière de diagnostic, mais au-delà des 5 jours. Et donc, les avancées majeures qui ont été faites ont été effectuées dans ce sens-là. Mieux comprendre la bioécologie des vecteurs, mieux comprendre la compétence des moustiques qui vont transmettre ce virus, mieux comprendre comment il diffuse et les meilleurs moyens pour le diagnostiquer. C'est essentiellement des avancées notables ont été faites dans ce domaine.
L'OMS juge approprié de reporter les dons de sang des voyageurs revenant de pays à risque où sévit le virus Zika après qu'une femme enceinte de retour de Colombie ait été diagnostiquée en Espagne, une première en Europe. Comment alors identifier le moustique ADF et l'éviter? Docteur Amadou Sol.
Bon, enfin, les moustiques Aedes, n'étant moi-même pas entomologue, j'ai été hasardé à aller dans une description très détaillée là-dessus, mais c'est un moustique qui est relativement commun. Un des très communs qu'on comprend, c'est Aedes aegypti, qui vit dans un environnement urbain dans la plupart des cas, mais aussi il y a toute une série d'Aedes qu'on peut retrouver en forêt, que ce soit Aedes lithocephalus, Taylori, plutôt là, de ce point de vue-là, en Afrique. Et les autres ARDS aussi, on parle beaucoup d'ARDS albopictus, qui est un leucocytique dont on entend beaucoup parler. Et globalement, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que c'est des moustiques qui peuvent vivre dans l'environnement urbain, pour lequel il est important d'éviter, pour s'en protéger, d'avoir des déchets ou d'avoir des gîtes pour ce type de moustiques autour des habitats. Et c'est important donc de faire un travail d'assainissement et de ce point de vue-là, en matière de lutte antivectorielle, de se protéger en ayant des habits avec des manches longues, en utilisant des répulsifs et en faisant des campagnes pour faire une désinfectisation.
Compte tenu des cas de microcéphalie et de malformations congénitales qu'on a vu notamment en Amérique latine, il y a des pays, par exemple, qui ont déconseillé les couples à avoir des enfants. Est-ce que vous pensez que c'est une meilleure solution?
Moi, je pense que c'est toujours difficile de donner un avis sur ce type de décision, qui sont des décisions relativement individuelles. Je peux comprendre que les autorités de santé publique, n'ayant pas de preuves claires entre le Zika et le virus et les microcéphalies, puissent conseiller d'éviter des grossesses. Mais de ce point de vue-là, c'est vraiment difficile de donner un point de vue assez clair, puisque je considère que c'est là des décisions individuelles et que après, c'est aux personnes concernées de prendre les décisions.
Apparemment, il y a beaucoup de panique et l'OMS dit qu'il faut agir, que nous devons agir. Est-ce qu'il y a-t-il à paniquer réellement?
Enfin, je pense que nous vivons rien de particulier par rapport à des réactions dans des contextes de santé publique. Il y a des nouveautés. Je pense que souvent, quand il y a une nouveauté en matière de santé publique, on n'a pas l'impression d'en maîtriser les causes ni l'évolution. Il peut y avoir une inquiétude dans les populations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités de santé publique, que ce soit à l'OMS ou dans la plupart des pays, sont mobilisées. Et souvent, il y a de très grands professionnels dans ces organisations et dans ces pays qui viennent souvent avec une bonne organisation, avec une bonne coordination qui peut se passer à l'échelle locale, nationale ou internationale, peut permettre de venir à bout de ce genre de situation. Je pense qu'il y a eu d'autres épidémies beaucoup plus sérieuses et il a été possible de venir à bout. Donc je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas lieu de paniquer et c'est vraiment de comprendre qu'il y a vraiment une inquiétude et que tout ce qui est faisable au jour d'aujourd'hui, que ce soit au niveau des chercheurs, des professionnels de santé publique ou au niveau des autorités sanitaires nationales et internationales, est en train d'être fait pour permettre justement de venir à bout de ce problème.
L'ONU a demandé vendredi aux pays touchés par le virus Zika, soupçonné de provoquer des malformations congénitales, d'autoriser l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement, une question encore sensible en Amérique latine, région la plus touchée par l'épidémie. Bien qu'il n'existe ni traitement ni vaccin spécifique pour lutter contre le virus Zika, le docteur Amadou Sol propose l'attitude à adopter par les États et en particulier les individus.
Moi, je pense que c'est comme les recommandations qui sont données partout. Il faut savoir que pour l'instant, dans les pays où ça circule, les recommandations est vraiment d'éviter les piqûres de moustiques. Et je pense qu'en l'état actuel de ce qu'on fait, les moyens qu'on a, c'est un peu ce qu'il faut conseiller à toutes les équipes. Maintenant, il y a beaucoup de pays où actuellement le virus ne circule pas. Et donc, il n'y a pas lieu justement d'appliquer certaines mesures. Le fait que ce soit transmis par des moustiques aussi fait que des conditions peuvent être favorables dans certains endroits et pas dans d'autres. Et donc, il faudrait avoir une stratégie qui se décline vraiment par pays et par contexte. Donc, il est absolument difficile de dire que voilà toutes les recommandations qu'on a données sur l'Afrique, puisque l'Afrique, enfin du nord au sud, est quelque chose de très, très différent en termes d'écologie et donc en population de moustiques et en comportement potentiel d'une épidémie. Et donc, de ce point de vue-là, il faut vraiment se référer à des situations cas par cas, mais de manière générale, au jour d'aujourd'hui, le moyen de prévention le plus sûr qu'on ait actuellement, c'est avec lequel on a plus de recommandations, et de lutter contre les moustiques.
L'information sur notre santé continue. Carrefour revient sur d'autres cas de virus et des microbes dans l'ensemble. Hélène Harpin est professeure de microbiologie. Elle attire notre attention sur le danger des microbes qui constitue un véritable problème de santé publique dans les pays essentiellement pauvres.
Alors, les microbes, effectivement, peuvent poser des problèmes de santé publique, et ça fait longtemps qu'on le sait. Maintenant, peut-être il faut cerner un peu plus ce qu'on appelle un microbe. Globalement, on emploie ce terme pour désigner à la fois les bactéries, qui sont donc des petits micro-organismes, on va dire, qui se multiplient, eux, de façon très rapide, en fonction des conditions dans lesquelles ils sont, mais en dehors d'un organisme vivant, donc très facilement en fait. Ensuite, on a les virus, hein, qui sont plutôt, qu'on trouve uniquement dans les cellules vivantes. Et puis on a les parasites, qui sont un peu plus gros et qui donc vivent dans des organismes vivants entiers. Alors le problème des microbes, en fait, en santé publique, c'est qu'on les trouve un petit peu partout. Aussi bien dans l'air, l'eau, le sol, on en trouve aussi sur la peau, bien sûr, dans l'intestin. Et bon, alors certains sont utiles, hein, très utiles pour l'homme, par exemple, ce que l'on a dans l'intestin, on en a une grande quantité, et ils sont nécessaires en fait pour notre digestion. Hein. Et puis on en a aussi au niveau de la peau, de la gorge, du vagin. Et ça permet justement d'empêcher d'autres microbes de rentrer dans l'organisme, on va dire. Hein? Donc dans ce point de vue-là, ils sont très utiles. Par contre, évidemment, en santé publique, le problème, c'est les microbes qui sont, eux, pathogènes, c'est-à-dire qui vont entraîner des maladies. Hein? C'est cela dont on parle le plus, évidemment. Et le problème de ces microbes, c'est que, d'une part, ils vont se multiplier facilement et d'autre part, certains vont pouvoir rentrer aussi facilement et contaminer donc l'homme et entraîner des maladies.
Selon notre professeur de microbiologie, les virus présentent beaucoup de dangers à la santé de l'homme.
Les microbes les plus virulents, c'est-à-dire qui sont, on va dire, les plus capables d'entraîner des maladies, hein, et puis qui vont être des maladies graves. C'est surtout, moi je dirais, des virus. Hein, donc, le problème donc, des virus, c'est que, ben, comme je vous l'ai dit, ils ne peuvent pas se multiplier en dehors d'une cellule vivante. Donc, voilà, on ne les trouve pas n'importe où quand même. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils sont souvent très graves. Ils entraînent des maladies très graves. Exemple, ben, le paludisme. Hein, malaria transmise par les moustiques et qui touche l'Afrique évidemment. Hein, dans le monde, le palu touche environ 300 millions de personnes et fait environ 1 million de morts par an. Mais il ne faut pas oublier aussi d'autres maladies qui proviennent de bactéries plutôt, hein, comme le choléra, les salmonelles, d'autres bactéries qui entraînent tout ce qui est diarrhée, gastro-entérite, qui sont pas des maladies très graves, mais qui sont quand même assez fréquentes. Hein, et surtout que l'on peut éviter facilement par des mesures d'hygiène assez simples, on va dire.
Dans la prochaine livraison de Carrefour, Hélène Harpin articulera sur l'importance de l'hygiène dans la lutte contre les microbes. Nous découvrirons ensemble que faire son hygiène correctement peut vous offrir un bon sourire et ensoleiller votre journée. La vie nous réserve toujours des surprises, un mal comme un bien. C'est pourquoi elle mérite d'être vécue. N'oubliez pas que je vous aime, comme le dit bien Jérôme Arnaud Wagner. Ainsi s'achève Carrefour Science et Santé. Nous disons merci au docteur Amadou Sol, chercheur sur Zika et dirigeant de l'Institut Pasteur de Dakar. Merci à vous tous pour votre oreille attentive. Eric Manelakiza vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.